Nous lisons aujourd'hui d'abord dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35, les versets 3 à 7. Rendez fortes les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants. Dites à ceux qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution de Dieu. Il vient lui-même vous sauver. Alors, les yeux des aveugles verront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Des eaux jailliront dans le désert, des torrents dans la steppe. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en source jaillissante. De leur repère où gîte le chacal, l'herbe deviendra roseau et papyrus. Et dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui, de plus, parlait difficilement. Et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et il lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés, et ils disaient, « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Nous sommes au dernier jour des Jeux paralympiques. Nous avons été sommés de vibrer pendant 2 semaines aux exploits d'athlètes porteurs de handicap. Ces Jeux font suite aux Jeux olympiques, au cours desquels se sont affrontés des athlètes valides. Depuis l'Antiquité grecque, en passant par la Renaissance italienne avec le David de Michel-Ange, nous sommes habitués à nous émerveiller de la beauté du corps humain quand il s'incarne dans des êtres au physique sans défaut, sans handicap, justement. Et il nous a été donné d'admirer des corps parfaits, les corps parfaits de Léon Marchand en natation, de Simone Biles à la gymnastique. D'un autre côté, nous sommes habitués d'ordinaire à ne pas voir les personnes porteuses de handicap, à détourner poliment les yeux. Malgré des lois successives qui promeuvent l'accessibilité des bâtiments publics ou des transports en commun, beaucoup trop de telles infrastructures restent inaccessibles à nombre de nos concitoyens. Et quand l'argent vient à manquer, les économies sont faites en premier dans le domaine social. Les établissements d'accueil des personnes porteuses de handicap, qu'ils soient physiques ou mentales, sont chroniquement sous-dotés. De ce fait, je pense que nous pouvons à juste titre nous demander si ces Jeux paralympiques ne sont qu'une parenthèse de 2 semaines pendant laquelle nous nous donnons bonne conscience et que le handicap redescendra ensuite au bas de la pile des priorités publiques. Ces Jeux paralympiques et le texte d'aujourd'hui me semblent être une bonne occasion de nous poser la question de la place que nous faisons dans notre Église aux personnes porteuses de handicap, que celui-ci soit de naissance, fasse suite à un accident, ou soit lié au grand âge. L'évangile de ce jour nous présente un sourd muet. Il n'est pas complètement laissé de côté, car des proches l'amènent à Jésus, et ceux-ci le supplient d'imposer les mains sur leur ami. Cela n'est pas dit dans le texte, mais il est clair qu'il ne doute pas du pouvoir de guérison de Jésus. Et ce dernier répond à leur demande en exécutant un rituel que ce passage de Marc est le seul à rapporter. Jésus met les doigts dans les oreilles du sourd, crache et lui touche la langue avec sa salive. Ces gestes devaient faire partie des rituels habituels de guérison du temps de Jésus. Dans les autres récits de guérison, la parole de Jésus est suffisante pour que la personne face à lui soit guérie. Cette parole souligne souvent la foi de la personne malade, avec par exemple la formule « Va, ta foi t'a sauvé ». Mais ici, nous sommes en décapole, c'est-à-dire en territoire non-juif. Jésus vient de guérir la fille d'une femme syrophénicienne qui le harcelait. Marc, contrairement à Matthieu, ne met pas dans la bouche de Jésus l'exclamation adressée à cette femme « Ta foi est grande ». Jésus, chez Marc, se contente de lui dire « Va, le démon est sorti de ta fille ». Pour Marc, Jésus ne semble pas s'attendre à trouver la foi en dehors des enfants d'Israël. La confiance qu'il est mis en son pouvoir de guérison ne tient pas à la foi, à la reconnaissance de Jésus comme Messie envoyé par Dieu. Cependant, cette seule confiance suffit à l'efficacité des gestes et des paroles de Jésus. Au sein des premières communautés chrétiennes, les Actes des apôtres nous disent que beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, donne une longue liste de charismes. À l'un, par l'Esprit est donné un message de sagesse, à l'autre, un message de connaissance. À l'un, dans le même esprit, c'est la foi. À un autre, dans l'unique esprit, ce sont des dons de guérison. À tel autre, d'opérer des miracles. À tel autre, de prophétiser. À tel autre, de discerner les esprits. À tel autre encore, de parler en langue. Enfin, à tel autre, de les interpréter. Nous pouvons alors nous poser la question: pourquoi aujourd'hui de tels charismes ne se manifestent-ils plus dans nos églises? Pourquoi ne sommes-nous plus à même de faire des miracles et d'amener à la foi nos contemporains par ceux-ci? D'ailleurs, ces passages bibliques sont au cœur des pratiques des églises pentecôtistes et évangéliques charismatiques, et nous savons le succès que remportent actuellement ces églises. Les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit ont le sentiment d'être accueillies, d'être prises en charge concrètement dans ces églises. Et une réponse simple et directe est donnée à leurs problèmes. Nous pouvons penser aussi à Lourdes dans l'Église catholique, qui voit affluer un nombre toujours aussi important de pèlerins, malades et handicapés. Je n'y suis jamais allé moi-même, mais j'ai entendu de nombreux témoignages sur ce lieu si particulier, où justement les malades et les handicapés sont à la première place. Beaucoup de personnes qui, le reste de l'année, sont isolées, plus ou moins oubliées dans des institutions, y sont pleinement accueillies. L'espérance d'un miracle doit toujours être une des motivations, mais l'Église catholique revendique un très petit nombre de tels miracles parmi les milliers de pèlerins. L'espérance de communion de foi a été intensément vécue et assurément aussi, voire plus importante. Alors, suis-je en train de dire qu'il faudrait que nous organisions dans notre Église des cultes de guérison ou des pèlerinages vers je ne sais quel lieu semblable à Lourdes? Non, bien entendu. Mais je m'interroge sur la place que nous donnons aux personnes malades ou handicapées, au regard que nous portons sur elles. Même si ne nous leur promettons pas de miracles, ne pouvons-nous pas leur apporter un message d'espérance? Dans le texte de ce jour, Jésus dit aux sourds-muets, « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Cette parole nous est-elle pas adressée à nous aussi? Ne devons-nous pas, nous aussi, nous ouvrir à tous ceux qui nous entourent, qui souffrent et qui attendent un geste, une parole de notre part? Une réponse est apportée à ces questions par toutes les œuvres, spécifiquement protestantes ou non, au sein desquelles nous pouvons tous agir, soit concrètement, soit par une participation financière. Mais ces œuvres ne sont à l'évidence pas suffisantes pour répondre à toutes les détresses auxquelles elles sont confrontées. Mais surtout, ne sont-elles pas une autre façon de détourner le regard de ces personnes en détresse? C'est toute notre société, notre façon de vivre ensemble qui est interrogée. Cette société que certains accusent d'être validiste, c'est-à-dire d'être conçue pour les personnes valides, avec simplement quelques mesures à la marge pour les personnes handicapées. L'appel de Jésus est-il toujours présent? En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont les frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Notre société est-elle faite pour les plus petits? Notre Église est-elle faite pour les plus petits? Nous pouvons nous demander, comme les foules le demandaient à Jean-Baptiste, que nous faut-il donc faire? Nous pouvons alors écouter Albert Nolan, théologien sud-africain, qui s'opposait à la politique d'apartheid. L'expérience de la lutte est une expérience d'espérance. On ne peut pas demander à une personne d'espérer. Il faut entrer dans la lutte et faire l'expérience de ces joyeuses célébrations pour savoir ce que l'espérance signifie réellement. La théologienne Dorothée Stilk exprimait cette idée en quelques phrases fortes et bien frappées. La lutte est la source de l'espérance. Il n'y a pas d'espérance sans combat. Il n'y a pas d'espérance qui tombe du ciel par l'intervention de Dieu. L'espérance est dans la lutte. Comme Albert Nolan le souligne, cette espérance ne vient pas de la volonté humaine, qui ne peut être que découragée face à la force brute du pouvoir sud-africain du temps de l'apartheid, ou face à l'immensité des défis sociaux à relever aujourd'hui. Mais elle vient véritablement de Dieu, qui se place aux côtés des opprimés, des personnes malades ou handicapées, des plus petits. Paul, dans ses lettres, nous dit qu'il a la conviction de vivre un kairos, un temps favorable, et appelle les croyants en Christ à agir en conséquence, comme dans cette exhortation faite aux Romains. d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est le plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est tout proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Même si aujourd'hui, nous ne vivons plus dans l'exaltation de l'attente du retour imminent du Christ, nous pouvons recevoir son appel, espérer la venue d'un monde meilleur et y travailler dans l'espérance que, revêtus des armes de lumière, notre lutte n'est pas vaine. Oui, l'espérance est dans la lutte et elle nous vient de Dieu. Nous pouvons donc le prier sans cesse de nous donner cette espérance. À nous chrétiens, à nous réunis aujourd'hui dans ce temple, mais aussi d'insuffler cette espérance à toute notre société pour qu'elle change de regard sur les plus petits et pas uniquement pendant les 2 semaines des Jeux paralympiques, mais jour après jour pour construire un monde plus fraternel. Notre Église se donne comme mission d'être une Église de témoins. Alors témoignons de notre espérance et vivons-la déjà dans nos paroisses par nos actes, nos cultes et nos prières. Amen.